continue l'émission en abordant la lutte à Waraka. Donc je demanderai aux personnes, est-ce qu'il y a une présentation du sujet ? Ok, donc... Ok, d'accord, on balance un morceau avant et ensuite on revient vers vous.
Interview d'un ami mexicain, du coup Alejandro Marcial, qui est avec nous et qui va nous présenter un peu ce qui s'est passé du coup le 21 juin à Oaxaca, du coup dans le sud-ouest mexicain, du coup une région forte avec des très grosses communautés indigènes où tentent pas mal des systèmes de communalité. On va pas en parler là maintenant, mais on espère faire un petit topo là-dessus dans 2 semaines. Et là, du coup, ça, c'est ce qui s'est passé mardi, c'est en lien avec la lutte des profs contre une réforme éducative du coup d'il y a 3 ans, et contre laquelle le syndicat CNTE lutte dans différents états au Mexique, notamment du coup à Oaxaca, au Chiapas, Michoacán et Guerrero. Et du coup, on va écouter...
Le 19 juin dernier, la police fédérale mexicaine a laissé derrière elle, sur la commune de Nochixlan, dans le sud-ouest mexicain de Oaxaca, au moins 8 personnes assassinées, 27 disparues et une centaine de blessés et d'arrêtés. Ça s'est passé lors d'affrontements occasionnés après une opération malmenée pour tenter de disperser les professeurs et habitants de Nochixlan, qui à ce moment-là bloquaient l'autoroute qui relie Mexico à Oaxaca. Depuis une semaine. Le blocage avait pour but d'empêcher l'avancée de la police à la capitale de la région de Oaxaca et faire pression dans le cadre du mouvement de la CNTE, soit la Coordination Nationale des Travailleurs de l'Éducation, la partie la plus radicale du syndicat mexicain de l'éducation, contre la réforme de l'éducation impulsée depuis 2012 par le gouvernement du président mexicain Enrique Peña Nieto. Étant donné que les forces policières connaissaient la détermination des manifestants érigeant des barricades munies de pierres et de patateurs, la stratégie de la police fédérale a pris un nouveau tournant avec l'entrée de deux hélicoptères armés de grenades lacrymogènes. En dépit du nouveau dispositif, les gens refusaient d'abandonner et empêcher l'avancée de la police. La situation est pire qu'en 2006, assurait un des policiers. Et juste après, un commando armé de la police fédérale est apparu. Dès la première heure, les violences ont été relayées par différents médias. Le ministère de l'Intérieur mexicain annonçait au même moment que les images sur lesquelles on voyait les policiers tirer avec des armes de gros calibre étaient fausses et qu'au contraire, ils n'avaient ni les permis de port d'armes ni de matraques.
Les modes d'action des troupes de policiers fédéraux s'établissent dans le cadre des protocoles édictés pour faire respecter la loi sans violer les droits de l'homme.
Affirme-t-il. À mesure que se confirmait la thèse des assassinats par la police, le nombre de morts ne faisait que croître. Alors, le pouvoir change de version, justifiant les faits en les associant à des individus non identifiés qui ont commencé à tirer, qui sait pourquoi, contre les policiers et contre les manifestants, sans différencier les deux côtés. La police aurait ensuite tiré seulement jusqu'à contrôler l'étrange situation, selon les derniers rapports. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement mexicain était préoccupé après la montée du mouvement des professeurs, qui, à la différence de 2006, ne se cantonne pas seulement à la ville ou à l'état de Oaxaca, mais dans tous les pays, notamment dans l'Ouest. Comme l'a affirmé le sous-commandant Galeano de l'armée zapatiste après les événements de Nochixlan.
Pourquoi un mouvement qui a été farouchement attaqué sur tous les fronts continue de croître? Pourquoi, s'ils sont des casseurs, des désœuvrés, des terroristes, des corrompus, des opposés au progrès, beaucoup de gens d'en bas, pas peu du milieu, et jusqu'à quelques-uns d'en haut acclament, presque toujours en silence, le corps professoral qui défend ce que n'importe qui défendrait.
Mardi dernier, la CNTE a annoncé l'augmentation des actions à l'échelle nationale. La prise de bureau des gouvernements ou le boycott des événements ou des discours organisés par les gouvernements est devenu un geste politique commun ces derniers jours. Les sections de la CNTE des États de Guerrero, Michoacán, Tabasco, Chiapas et Mexico ont organisé seulement ce vendredi 1er juillet des blocages coordonnés des voies routières dans leur région en soutien à la lutte des professeurs de Oaxaca, un des États où la réforme n'a pas été appliquée.
De la côte à l'intérieur des terres, nous continuons le combat. Peña Nieto ne sait pas que nous autres peuples autochtones avons une loi qui est la fraternité et l'unité. Toi et ta réforme de merde n'arriveront pas jusqu'à Oaxaca. Nous encerclerons la ville, si c'est nécessaire. Nous mettrons en place des actions déterminantes et ciblées pour défendre notre éducation.
A affirmé déjà avant un membre de la CNTE, dont les mots font résonner l'écho de la longue histoire des rébellions indigènes durant la conquête et la colonisation d'un exemplaire de Oaxaca. D'ailleurs, les blocages ont clairement une cible anti-marchandise, puisque, comme on peut le voir à chaque fois, ce sont les camions des multinationales qui se sont vus couper l'accès aux villes, notamment ceux des entreprises qui ont fomenté la réforme de l'éducation. De son côté, le péage gratuit permet de soutenir les mouvements avec la coopération des automobilistes. Aussi, il est faux de parler de pénurie et des approvisionnements comme les médias et les gouvernements le font, afin de disqualifier la lutte contre la réforme de l'éducation. Car Oaxaca est un des rares états où l'approvisionnement alimentaire provient à 70% de l'agriculture pratiquée par la plupart des 570 communes. Les plus préoccupés par ces blocages sont évidemment les entreprises du type Walmart, laquelle a annoncé qu'elle est en train d'évaluer si elle va fermer ou non ses supermarchés dans le Oaxaca insurgé. La détention des professeurs dans des prisons de haute sécurité pour n'importe quel délit supposé Par exemple, un bol de livres attribué à deux leaders de la CNTE peut refléter la volonté et la peur qu'a le gouvernement mexicain et pour en finir une fois pour toutes avec ces mouvements et accomplir une réforme de l'éducation qui fait partie du programme d'ajustement structurel développé par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque interaméricaine du développement. Que l'État mexicain soit d'ores et déjà une entité seulement corporative qui obéit directement aux ordres des multinationales, y compris les cartels de narcotrafic, c'est quelque chose d'évident dans le discours du ministre de l'Intérieur mexicain, Miguel Ángel Osorio Chong, qui a averti ce vendredi, au nom de la conformité, au professeur de la CNTE que le temps de blocage à Oaxaca et au Chiapas est terminé.
Les blocages et les dommages aux citoyens doivent s'arrêter. C'est pour ça que se prendront rapidement les actions nécessaires pour permettre la circulation des voies stratégiques et le ravitaillement de la population.
De leur côté, les profs disent qu'ils ne laisseront pas passer une réforme qui est déjà morte, la même qu'on est déjà en train d'enterrer à Oaxaca.
On reprend l'antenne. Potlatch poursuit et va conclure avec Minouche. Alors Minouche, à chaque fin d'émission, nous lit un texte, un poème. En attendant ce poème, elle a demandé une chanson qu'on va faire passer tout de suite.
Bye.
On approche de la fin et Minouche va nous lire un passage d'un roman qui s'appelle Le disque de Jade de Joseph Reich. Un roman qui retrace l'histoire de gouvernement de la Chine du IIIe siècle avec le point de vue des femmes. Et notamment l'une de ces femmes, celle qui traverse tout le roman, c'est celle qui tient les ficelles. C'est la manipulatrice. Alors maintenant, on va entendre Minouche qui nous apporte ce texte qui est venu à pied par la Chine.
À peine avait-elle été introduite dans sa chambre que Qin Shuangji se jetait à ses pieds en la suppliant de lui accorder ses faveurs et de prendre sa tige de jade dans sa bouche. Il prétendait qu'elle était la seule à pouvoir le satisfaire comme il l'entendait. Son discours était invariable et s'achevait toujours par le même cri du cœur. Il avait besoin d'elle. Il aimait ses caresses, il attendait autant de sa science taoïste que de ses pratiques amoureuses. Si elle avait été plus jeune, nul doute qu'il l'eût prise pour épouse. Il est vrai que Huayang réussissait, malgré son âge, à faire beaucoup mieux que toutes les concubines dont l'empereur du centre se fournissait à profusion auprès du gynécée impérial, et qu'il délaissait à peine les avait-il touchées. Profitant du rapport de force qui s'établissait alors en sa faveur, elle faisait régulièrement subir à l'empereur du centre, à cette occasion, un véritable chantage à l'immortalité, qui n'était pas loin d'une petite torture. Dis-moi, Huayang, comment pourrais-je vivre 10 000 ans de plus ? Telle était la phrase rituelle, prononcée par un empereur méconnaissable, angoissé et fébrile, par laquelle commençaient toujours ses séances après le premier contact entre les lèvres de la reine et sa tige de jade. Alors, il n'était plus qu'un enfant dans les bras d'une femme plus âgée encore que sa propre mère, prêt à tout pour en devenir le jouet. Il faut pour cela unir tes souffles aux miens et suivre tous mes préceptes. S'ils sont positifs, tu vivras déjà 3 ans de plus, répondait invariablement Huayang. En général, elle plaçait alors la tête de Qin Shuangdi entre ses cuisses nues et le laissait humer à sa guise sa sublime porte de jade qu'elle avait au préalable désherbée et parfumée à l'eau de fleurs de jasmin. Très vite, le sang montait à la tête de l'empereur, qui n'avait de cesse que de s'engager le plus profondément possible dans la vallée des roses de la reine. Au moment où il allait prendre son plaisir, Huayang lui murmurait « Si tu retiens l'épanchement de ta liqueur, tu gagneras 3 ans de vie. » Qin Shuangji s'efforçait alors de contrer du mieux qu'il pouvait pour tenir compte des conseils éclairés de Huayang, le jaillissement de sa fontaine de jade. Mais le désir était trop fort. Sa tige de jade s'était aventurée bien trop loin dans le couloir lubrifié de la sublime porte de Huayang. Alors, complètement défait, dans un rugissement sauvage, n'arrivant plus à contenir l'inexorable montée du plaisir que les lèvres expertes de Huayang avaient déclenché, il finissait par répandre un flot de liqueur de jade clair comme l'ivoire tout au fond de la vallée des roses de la vieille reine. Celle-ci, satisfaite de son travail, n'avait plus qu'à essuyer comme si de rien n'était les lèvres de sa sublime porte avec un petit mouchoir de soie. Et voilà 3 ans de perdu, gémissait alors l'empereur du centre. Mais ses gémissements étaient à la fois de plaisir et de désarroi. Tu les regagneras la prochaine fois, assurait-elle comme à l'accoutumée. C'est ainsi qu'elle le tenait serré, comme le cavalier son cheval, avec des rênes courtes.
Merci, Minouche.
De rien.
On a fini, en fait. Donc, on se retrouve dans 2 semaines, ce qui nous apporte 7 plus 7, machin, j'en sais rien. Bon, c'est dans deux dimanches. On sera là, j'espère. Une info qu'on a oublié de rappeler tout à l'heure par rapport à Villeneuve d'Ornon, c'est qu'il y a tous les dimanches à 19h l'Assemblée Générale du Mouvement. Voilà, donc ça c'est pour vous rappeler bien l'information et surveiller bien aussi les infos qui seront appelées du mouvement. Je pense notamment, elles sont diffusées sur le site de Démosphère. On a fini, mes petits chats. On passe en dernier morceau. Je vous rappelle l'adresse du blog sur laquelle vous pouvez retrouver les émissions pour les écouter ou les réécouter. radiopotlatch.noblogs.org ou bien nous écrire aussi potlatch@netcourrier.com. Voilà, à ciao et bien soir.
Cianuro en aerosol, tanque, amenaza, MXM. Salgo a la calle cuando se pone el sol. Me acompañan siete puntas en la bolsa un aerosol. 2 años, 8 meses, esa ha sido la condena. He destrozado todo como Katrina y Kena. Pónganme una cadena, amarren este loco. 10 litros de pintura, este día se me hace poco. Si ves una patrulla y hay un barco dormido, píntale tu apodo, el mío y el de mi amigo. Yo le pondré bigote a ese monumento. La hidro representa la mezcla en el cemento. Mis dedos de cianuro, voy en busca de otro muro. Salgo seguro y de la tira me la curo. Represento el lado oscuro, puro vandalismo. Puro, puro vandalismo, puro.
Yeah, así me quedó chida.